Il y avait autrefois, dans cette ville, une vieille dame, très vertueuse et protectrice de la vertu, qui s'appelait Madame Husson. Tu sais, je te dis les noms véritables et pas des noms de fantaisie. Madame Husson s'occupait particulièrement des bonnes œuvres, de secourir les pauvres et d'encourager les méritants. Petite, trottant court, ornée d'une perruque de soie, cérémonieuse, polie, en fort bon terme avec le bon Dieu représenté par l'abbé Maloux, elle avait une horreur profonde, une horreur native du vice, et surtout du vice que l'Église appelle luxure. Les grossesses avant mariage la mettaient hors d'elle, l'exaspéraient jusqu'à la faire sortir de son caractère. Or, c'était l'époque où l'on couronnait des rosières aux environs de Paris, et l'idée vint à Madame Husson d'avoir une rosière à Gisors. Elle s'en ouvrit à l'abbé Maloux, qui dressa aussitôt une liste de candidates. Mais Madame Husson était servie par une bonne, par une vieille bonne nommée Françoise, aussi intraitable que sa patronne. Dès que le prêtre fut parti, la maîtresse appela la servante et lui dit « Tiens, Françoise, voici les filles que me propose monsieur le curé pour le prix de vertu. Tâche de savoir ce qu'on pense d'elles dans le pays. » Et Françoise se mit en campagne. Elle recueillit tous les potins, toutes les histoires, tous les propos, tous les soupçons. Pour ne rien oublier, elle écrivait cela avec la dépense sur son livre de cuisine et le remettait chaque matin à Madame Husson, qui pouvait lire après avoir ajusté ses lunettes sur son nez mince « Pain, 4 sous. Lait, 2 sous. Beurre, 8 sous. Malvina l'évêque s'a dérangé l'an dernier avec Mathurin poilu. Un gigot, 25 sous. Sel, 1 sou. Rosalie Vatinelle qu'a été rencontrée dans le bois Ribourdet avec Césaire Pied-Noir par Madame Onésime, repasseuse, le 20 juillet à la Brune. » Radis, 1 sou, vinaigre, 2 sous, sel d'oseille, 2 sous, Joséphine Durdan, qu'on ne croit pas qu'elle fautait nonobstant qu'elle est en correspondance avec le fils opportun, qui est en service à Rouen et qui lui a envoyé un bonnet en cadeau par la diligence. Pas une ne sortit intacte de cette enquête scrupuleuse. Françoise interrogeait tout le monde, les voisins, les fournisseurs, l'instituteur, les sœurs de l'école, et recueillait les moindres bruits. Comme il n'est pas une fille dans l'univers sur qui les commères n'aient jasé, il ne se trouva pas dans le pays une seule jeune personne à l'abri d'une médisance. Or, Madame Husson voulait que la rosière de Gisors, comme la femme de César, ne fût même pas soupçonnée, et elle demeurait désolée, désespérée devant le livre de cuisine de sa bonne. On élargit alors le cercle des perquisitions jusqu'au village environnant. On ne trouva rien. Le maire fut consulté. Ses protégés échouèrent. Celles du docteur Barbesol n'eurent pas plus de succès, malgré la précision de ses garanties scientifiques. Or, un matin, Françoise, qui rentrait d'une course, dit à sa maîtresse « Voyez-vous, madame, si vous voulez couronner quelqu'un, il n'y a qu'Isidore dans la contrée. » Madame Husson resta rêveuse. Elle le connaissait bien, Isidore, le fils de Virginie, la fruitière. Sa chasteté proverbiale faisait la joie de Gisors depuis plusieurs années déjà, servait de thème plaisant aux conversations de la ville et d'amusement pour les filles qui s'égayaient à le taquiner. Âgé de 20 ans passés, grand, gauche, lent et craintif, il aidait sa mère dans son commerce et passait ses jours à éplucher des fruits ou des légumes, assis sur une chaise devant la porte. Il avait une peur maladive des jupons qui lui faisait baisser les yeux dès qu'une cliente le regardait en souriant. Et cette timidité bien connue le rendait le jouet de tous les espiègles du pays. Les mots hardis, les gauloiseries, les allusions graveleuses le faisaient rougir si vite que le docteur Barbesol l'avait surnommé le thermomètre de la pudeur. Savait-il ou ne savait-il pas ? Se demandaient les voisins, les malins. Était-ce le simple pressentiment de mystère ignoré et honteux, ou bien l'indignation pour les vils contacts ordonnés par l'amour qui semblait émouvoir si fort le fils de la fruitière Virginie? Les galopins du pays, en courant devant sa boutique, hurlaient des ordures à pleine bouche afin de le voir baisser les yeux. Les filles s'amusaient à passer et à repasser devant lui en chuchotant des polissonneries qui le faisaient rentrer dans la maison. Les plus hardis le provoquaient ouvertement, pour rire, pour s'amuser, lui donnaient des rendez-vous, lui proposaient un tas de choses abominables. Donc, Madame Husson était devenue rêveuse. Certes, Isidore était un cas de vertu exceptionnelle, notoire, inattaquable. Personne, parmi les plus sceptiques, parmi les plus incrédules, n'aurait osé soupçonner Isidore de la plus légère infraction à une loi quelconque de la morale. On ne l'avait jamais vu non plus dans un café, jamais rencontré le soir dans les rues. Il se couchait à 8 heures et se levait à 4. C'était une perfection, une perle. Cependant, Madame Husson hésitait encore. L'idée de substituer un rosier à une rosière la troublait, l'inquiétait un peu, et elle se résolut à consulter l'abbé Maloux. L'abbé Maloux répondit « Qu'est-ce que vous désirez récompenser, madame ? C'est la vertu, n'est-ce pas ? Et rien que la vertu ! Que vous importe alors qu'elle soit mâle ou femelle ? La vertu est éternelle, elle n'a pas de patrie et pas de sexe, elle est la vertu. » Encouragée ainsi, Madame Husson alla trouver le maire. Il approuva tout à fait. « Nous ferons une belle cérémonie, dit-il, et une autre année, si nous trouvons une femme aussi digne qu'Isidore, nous couronnerons une femme. C'est même là un bel exemple que nous donnerons à Nanterre. Ne soyons pas exclusifs, accueillons tous les mérites. » Isidore, prévenu, rougit très fort et sembla content. Le couronnement fut donc fixé au 15 août, fête de la Vierge Marie et de l'empereur Napoléon. La municipalité avait décidé de donner un grand éclat à cette solennité et on avait disposé l'estrade sur les couronneaux, charmant prolongement des remparts de la vieille forteresse où je te mènerai tout à l'heure. Par une naturelle révolution de l'esprit, la vertu d'Isidore, bafouée jusqu'à ce jour, était devenue soudain respectable et enviée depuis qu'elle devait lui rapporter 500 francs, plus un livret de caisse d'épargne, une montagne de considération et de la gloire à revendre. Les filles maintenant regrettaient leur légèreté, leurs rires, leurs allures libres. Et Isidore, bien que toujours modeste et timide, avait pris un petit air satisfait qui disait sa joie intérieure. Dès la veille du 15 août, toute la rue Dauphine était pavoisée de drapeaux. Ah, j'ai oublié de te dire à la suite de quel événement cette voie avait été appelée rue Dauphine. Il paraîtrait que la Dauphine, une Dauphine je ne sais plus laquelle visitant Gisors, avait été retenue si longtemps en présentation par les autorités que, au milieu d'une promenade triomphale à travers la ville, elle arrêta le cortège devant une des maisons de cette rue et s'écria « Oh, la jolie habitation ! Comme je voudrais la visiter ! À qui donc appartient-elle ? » On lui nomma le propriétaire qui fut cherché, trouvé et amené, confus et glorieux devant la princesse. Elle descendit de voiture, entra dans la maison, prétendit la connaître du haut en bas et resta même enfermée quelques instants seule dans une chambre. Quand elle ressortit, le peuple, flatté de l'honneur fait à un citoyen de Gisors, hurla « Vive la Dauphine !» Mais une chansonnette fut rimée par un farceur et la rue garda le nom de l'Altesse royale car la princesse très pressée, sans cloche, prêtre ou bedeau, l'avait, avec un peu d'eau, baptisée. Mais je reviens à Isidore. On avait jeté des fleurs tout le long du parcours du cortège, comme on fait aux processions de la fête Dieu. Et la garde nationale était sur pied. Sous les ordres de son chef, le commandant des barres, un vieux solide de la grande armée, qui montrait avec orgueil, à côté du cadre contenant la croix d'honneur donnée par l'empereur lui-même, la barbe d'un cosaque cueillie d'un seul coup de sabre au menton de son propriétaire par le commandant pendant la retraite de Russie. Le corps qu'il commandait était d'ailleurs un corps d'élite célèbre dans toute la province. Et la compagnie des grenadiers de Gisors se voyait appelée à toutes les fêtes mémorables dans un rayon de 15 à 20 lieues. On raconte que le roi Louis-Philippe, passant en revue les milices de l'heure, s'arrêta émerveillé devant la compagnie de Gisors et s'écria « Oh, quels sont ces beaux grenadiers ?»«
Ce Gisors, » répondit le général. « J'aurais dû m'en douter, » murmura le roi.
Le commandant des barres s'en vint donc avec ses hommes, musique en tête, chercher Isidore dans la boutique de sa mère. Après un petit air joué sous ses fenêtres, le rosier lui-même apparut sur le seuil. Il était vêtu de coutis blancs, des pieds à la tête, et coiffé d'un chapeau de paille qui portait, comme une cocarde, un petit bouquet de fleurs d'oranger. Cette question du costume avait beaucoup inquiété Madame Husson, qui hésita longtemps entre la veste noire des premiers communiants et le complet tout à fait blanc. Mais Françoise, sa conseillère, la décida pour le complet blanc en faisant voir que le rosier aurait l'air d'un cygne. Derrière lui parut sa protectrice, sa marraine, Madame Husson, triomphante. Elle prit son bras pour sortir et le maire se plaça de l'autre côté du rosier. Les tambours battaient. Le commandant des barres commanda « Présentez armes !» Le cortège se remit en marche vers l'église au milieu d'un immense concours de peuple venu de toutes les communes voisines. Après une courte messe et une allocution touchante de l'abbé Malou, on repartit vers les Couronneaux où le banquet était servi sous une tente. Avant de se mettre à table, le maire prit la parole. Voici son discours textuel. Je l'ai appris par cœur car il est beau. Jeune homme, une femme de bien, aimée des pauvres et respectée des riches, Madame Husson, que le pays tout entier remercie ici par ma voix, a eu la pensée, l'heureuse et bienfaisante pensée, de fonder en cette ville un prix de vertu qui serait un précieux encouragement offert aux habitants de cette belle contrée. Vous êtes, jeune homme, le premier élu, le premier couronné de cette dynastie de la sagesse et de la chasteté. Votre nom restera en tête de cette liste des plus méritants. Et il faudra que votre vie, comprenez-le bien, que votre vie tout entière réponde à cet heureux commencement. Aujourd'hui, en face de cette noble femme qui récompense votre conduite, en face de ces soldats citoyens qui ont pris les armes en votre honneur, en face de cette population émue, réunie pour vous acclamer, ou plutôt pour acclamer en vous la vertu, vous contractez l'engagement solennel envers la ville, envers nous tous, de donner jusqu'à votre mort l'excellent exemple de votre jeunesse. Ne l'oubliez point, jeune homme, vous êtes la première graine jetée dans ce champ de l'espérance. Donnez-nous les fruits que nous attendons de vous. Le maire fit trois pas, ouvrit les bras, et serra contre son cœur Isidore qui sanglotait. Il sanglotait, le rosier, sans savoir pourquoi, d'émotions confuses, d'orgueil, d'attendrissement vague et joyeux. Puis le maire lui mit dans une main une bourse de soie où sonnait de l'or, 500 francs en or, et dans l'autre un livret de caisse d'épargne, et il prononça d'une voix solennelle « Hommage !» « Gloire et richesse à la vertu !» Le commandant des barres hurlait « Bravo !» Les grenadiers vociféraient, le peuple applaudit. À son tour, Madame Husson s'essuya les yeux. Puis on prit place autour de la table où le banquet était servi. Il fut interminable et magnifique. Les plats suivaient les plats. Le cidre jaune et le vin rouge fraternisaient dans les verres voisins et se mêlaient dans les estomacs.
Les chocs d'assiettes, les voix et la musique qui jouaient en sourdine faisaient une rumeur continue, profonde, s'éparpillant dans le ciel clair où volaient les hirondelles. Madame Husson rajustait par moments sa perruque de soie noire chavirée sur une oreille et causait avec l'abbé Malou. Le maire, excité, parlait politique avec le commandant des bars et Isidore mangeait. Isidore buvait comme il n'avait jamais bu et mangé. Il prenait et reprenait de tout, s'apercevant pour la première fois qu'il est doux de sentir son ventre s'emplir de bonnes choses qui font plaisir d'abord en passant par la bouche. Il avait desserré adroitement la boucle de son pantalon qui le serrait sous la pression croissante de son bedon et, silencieux, un peu inquiété cependant par une tache de vin tombée sur son veston de coutil, il cessait de mâcher pour porter son verre à sa bouche et l'y garder le plus possible, car il goûtait avec lenteur. L'heure des toasts sonna. Ils furent nombreux et très applaudis. Le soir venait, on était à table depuis midi. Déjà flottaient dans la vallée les vapeurs fines et laiteuses, légers vêtements de nuit des ruisseaux et des prairies. Le soleil touchait à l'horizon, les vaches beuglaient au loin dans les brumes des pâturages. C'était fini. On redescendait vers Gisors. Le cortège, rompu maintenant, marchait en débandade. Madame Husson avait pris le bras d'Isidore et lui faisait des recommandations nombreuses, pressantes, excellentes. Ils s'arrêtèrent devant la porte de la fruitière et le rosier fut laissé chez sa mère. Elle n'était point rentrée. Invitée par sa famille à célébrer aussi le triomphe de son fils, elle avait déjeuné chez sa sœur après avoir suivi le cortège jusqu'à la tente du banquet. Donc, Isidore resta seul dans la boutique où pénétrait la nuit. Il s'assit sur une chaise, agité par le vin et par l'orgueil, et regarda autour de lui. Les carottes, les choux, les oignons répandaient dans la pièce fermée leur forte senteur de légumes, leurs arômes jardiniers et rudes auxquels se mêlait une douce et pénétrante odeur de fraises et le parfum léger, le parfum fuyant d'une corbeille de pêche. Le rosier en prit une et la mangea à pleines dents, bien qu'il eût le ventre rond comme une citrouille. Puis, tout à coup, affolé de joie, il se mit à danser. Et quelque chose sonna dans sa veste. Il fut surpris, enfonça ses mains en ses poches et ramena la bourse aux 500 francs qu'il avait oubliés dans son ivresse. 500 francs, quelle fortune! Il versa les louis sur le comptoir et les étala d'une lente caresse de sa main grande ouverte pour les voir tous en même temps. Il y en avait 25. 25 pièces rondes en or, toutes en or. Elles brillaient sur le bois, dans l'ombre épaissie, et il les comptait et les recomptait, posant le doigt sur chacune et murmurant « Une, deux, trois, quatre, cinq, cent, six, sept, huit, neuf, dix, 200 ». Puis il les remit dans la bourse, qu'il cacha de nouveau dans sa poche. Qui saura et qui pourra dire le combat terrible livré dans l'âme du rosier entre le bien et le mal? L'attaque tumultueuse de Satan, ses ruses, les tentations qu'il jeta en ce cœur timide et vierge. Quelles suggestions, quelles images, quelles convoitises inventa le malin pour émouvoir et perdre cet élu. Il saisit son chapeau, l'élu de Madame Husson, son chapeau qui portait encore le petit bouquet de fleurs d'oranger. Et sortant par la ruelle derrière la maison, il disparut dans la nuit.